Bonsoir. Gare au passeport immunitaire. Dans la perspective du déconfinement, l'OMS met en garde les pays qui voudraient se retrancher derrière une possible immunité collective. Rien ne prouve, précise ce soir l'agence de l'ONU, que les personnes guéries du Covid-19 soient prémunies contre une deuxième infection. Pas de masque en classe pour les enfants qui devront toutefois porter des masques à la récréation et sur la route de l'école. L'Académie de médecine publie ses recommandations pour la rentrée du 11 mai. Vers un débrayage des routiers le 7 mai, et de tous les salariés du secteur mobilisés depuis le début de l'épidémie. Ils sont appelés par la CFDT à rendre hommage aux collègues victimes du virus. Dans ce journal également, Air France, compagnie verte. Les associations de défense de l'environnement ont du mal à y croire. Un 1er mai raté d'avance pour les producteurs de muguet. La ruée des Français vers les marchands de tissus pour fabriquer des masques, où l'on constate que ce n'est pas le tissu qui manque, ce sont les élastiques. Une vraie course aux solutions pour le déconfinement sur le net, c'est la vie connectée de Christine Siméon. Et puis le temps demain, copie conforme d'aujourd'hui, plutôt ensoleillé dans la moitié nord, instable au sud.
France Inter.
Tout ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait toujours pas. Les scientifiques s'interrogent depuis plusieurs semaines et la question n'est donc toujours pas tranchée. L'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, confirme ce soir qu'aucune preuve n'a encore été apportée que les personnes guéries du Covid-19 sont protégées d'une deuxième infection. L'Agence des Nations Unies met donc en garde contre la délivrance de certificats d'immunité dont la fiabilité ne peut pas être garantie. Jérémy Lange nous appelle de Genève au siège de l'OMS.
Il faut en général une à deux semaines un organisme contaminé pour développer une immunité contre un pathogène comme pour celui responsable du Covid-19. On cherche alors la présence d'anticorps spécifiques au virus, mais ça ne suffit pas à affirmer que la personne ne peut pas retomber malade, déjà parce qu'on ne sait toujours pas combien de temps dure l'immunité contre le nouveau coronavirus, et aussi parce que les tests ne sont pas forcément fiables. Il peut y avoir des faux négatifs et surtout des faux positifs, notamment des personnes chez lesquelles on aurait confondu les anticorps détectés avec d'autres liés à un coronavirus différent. Les conséquences seraient désastreuses, avec des malades potentiels qui se croiraient immunisés et qui ne respecteraient plus les gestes barrières avec leur entourage, prévient l'OMS. Les passeports immunitaires soulèvent aussi des questions éthiques, avec des risques de discrimination entre ceux qui seraient protégés et ceux qui ne le sont pas. Genève, Jérémy Lange, France Inter.
Près de 3 millions de personnes à ce jour ont été infectées par le nouveau coronavirus dans le monde et près de 200 000 en sont mortes. À noter que ce soir, le Royaume-Uni franchit à son tour la barre des 20 000 victimes après les États-Unis, l'Italie, l'Espagne et la France. La France, où le dernier bilan de la Direction Générale de la Santé à l'instant, fait état de 369 morts supplémentaires, soit 22 614 au total. 124 nouveaux malades ont été admis en réanimation ces dernières 24 heures, soit un solde négatif de 145. Pour éviter un retour de l'épidémie après le déconfinement, on sait qu'il faudra multiplier les tests virologiques qui permettront d'isoler les personnes contaminées. Tester 60 millions de Français n'aurait pas de sens. Encore expliqué le ministre de la Santé, Olivier Véran, en visite ce matin dans un laboratoire de biologie à Saint-Denis. Ce qu'il faut, dit-il, c'est dépister les personnes présentant des symptômes. 500 à 700 000 tests pourront être réalisés chaque semaine à partir du 11 mai.
Si on considère qu'on doit me tester, le test est fait par la plateforme du laboratoire. Je ne suis pas malade. Je ne suis pas porteur du virus. Vous n'êtes pas porteur du virus non plus. Qu'est-ce qu'on fait demain ? On recommence, je vous refais. Donc on va faire tester 60 millions de Français tous les jours. Non seulement c'est impossible, aucun pays au monde ne le fait. Alors là, vous pouvez regarder, aucun pays au monde ne s'est engagé dans ce chantier-là. Par contre, qu'on fasse des études de surveillance épidémiologique très fines dans chaque territoire, en allant tester de façon aléatoire d'ailleurs des gens asymptomatiques, pour regarder si ça monte, pour regarder si le virus circule, ça m'intéresse. Donc identifier toute personne malade, identifier tous les cas contacts, toutes les personnes qui ont été en contact prolongé et rapproché avec les personnes malades, aller les dépister systématiquement, isoler qui doit être isolé, ça c'est la méthode qui fonctionne.
Olivier Véran ce matin à Saint-Denis. En même temps que les tests, il faudra bien sûr équiper de masques le plus de gens possible. Des masques qui seront distribués ou disponibles en mairie, en pharmacie, dans les bureaux de tabac, les grandes surfaces ou partout à la fois. En attendant, eh bien c'est un peu la débrouille. Beaucoup essaient de se fabriquer leurs propres masques. Les tutos d'ailleurs ne manquent pas sur le net. Les marchands de tissus qui ont été autorisés à rouvrir ce matin ont été dévalisés avec cette constatation, Véronique Robérotte. Ce n'est pas le tissu qui manque, c'est l'élastique.
Première boutique, Maryse a les bras chargés de coupons, mais elle n'a pas trouvé ce qu'elle espérait.
C'est pour des masques. Et là, je suis venue pour récupérer d'autres tissus. J'étais venue pour les élastiques, mais il n'y en a pas.
De l'autre côté du trottoir, Lionel, le patron des coupons Saint-Pierre, sait comment attirer les clientes.
Alors, ces élastiques, ça arrive dans un quart d'heure. Oui, j'ai des élastiques, en effet, qui sont au dépôt, qui vont arriver. Oui, justement, j'hésite entre 50 centimes et 50 euros le mètre. Je sais pas encore. J'ai l'impression que ça vaut plus cher les élastiques que la drogue. C'est incroyable et c'est plus difficile à avoir.
Christelle retrouve le sourire. Elle est venue exprès de banlieue.
Super contente. Je suis de banlieue, donc voilà, mais comme c'est ici qu'on peut en trouver, donc je suis venue. Et après, on usine, on besogne à la maison.
Si j'en avais, ça aurait
voilà, on fait pour la famille, les amis, les proches. Enfin voilà, j'ai une machine à coudre, je sais faire. Appli classique, plus élastique.
Mais pas question pour Lionel, le patron, de spéculer.
Vous l'achetez 50 centimes le mètre, vous allez le vendre du coup ?
Là, je vais mettre un euro.
C'est raisonnable. Complètement.
Mais la quantité est rationnée, 10 mètres d'élastique par personne, pas plus.
À 10 mètres, ça en fait des élastiques. Voilà, Véronique Reberotto au marché Saint-Pierre, le temple du tissu à Paris. Un très grand masque. Des masques avec leur élastique, justement, il faudra en distribuer aux enseignants et au personnel accueillant les enfants de retour à l'école. Les enfants qui, à partir du CP, devront également les porter en récréation et sur la route de l'école, mais pas en classe. Telle est la recommandation de l'Académie de médecine, qui donne ce soir son mode d'emploi pour la rentrée du 11 mai. Mathieu Mondoloni.
La question, par exemple, d'autoriser les regroupements, que ce soit devant une école pour les parents ou à l'intérieur pour les enfants. Et pour ça, l'Académie propose d'aménager les horaires pour un accueil espacé des enfants, d'assurer un écartement d'un mètre au minimum entre les tables de classe et d'organiser des espaces sécurisés à la cantine. Les récréations devraient être organisées par petits groupes, composés si possible toujours des mêmes enfants, pour là aussi éviter de multiplier tout contact. Enfin, le port du masque, si les élèves et les professeurs peuvent s'en passer en classe, dit l'Académie, il est impératif de le porter lors des activités récréatives et à la sortie de l'établissement, et ce, dès le CP. Tout cela devrait évidemment s'accompagner de mesures d'hygiène strictes, lavage des mains systématique plusieurs fois par jour à l'eau et au savon, installation de distributeurs de solutions hydroalcooliques. Sans cela, prévient l'Académie, difficile de rouvrir les écoles sans risque de propager le virus.
Et puis en amont du 11 mai, l'Académie recommande une formation sur les gestes barrières pour les enseignants et le personnel.
Voilà, et je rappelle que tout à l'heure on parlera au téléphone sonne des pénuries de médicaments pour cette pandémie, mais pas seulement, on parlera des pénuries en général. Yves, et vous pouvez tous appeler au 01 45 24 7000. La suite du journal à présent.
Une journée de débrayage pour les routiers, le 7 mai. À l'appel de la CFDT, premier syndicat du secteur, tous les salariés du transport routier mobilisés depuis le début de la crise sont invités à cesser le travail ce jour-là et à porter des brassards noirs en signe de deuil, en hommage bien sûr aux 35 collègues victimes à ce jour du Covid. Les routiers travailleurs de la deuxième ligne, comme on dit aujourd'hui, ont aussi besoin d'être reconnus. Le secrétaire général de l'UFR-CFDT, Patrick Blaise, avec Hélène Philly.
On demande que tous nos collègues qui travaillent et qui ont été affectés par le Covid soient reconnus en maladie professionnelle comme les personnels de santé. Ça, c'est la première revendication, puisque nous sommes au front depuis le début. Si vous pouvez encore vous nourrir, si tout le monde peut se nourrir, c'est parce que le transport a fait son travail, la logistique a fait son travail, et bien entendu, dans les magasins, eh bien, les salariés ont pu faire leur travail aussi, et ils sont concernés aussi, même s'ils ne sont pas du transport. Et aujourd'hui, on demande à ce que ces petites mains soient réellement reconnues, et à partir du moment où on voit l'État donner à ses fonctionnaires des primes, eh bien, pourquoi est-ce que ces petites mains qui ont travaillé depuis le début n'auraient pas une prime aussi? Certaines entreprises de transport logistique en donnent, mais toutes n'ont pas les moyens de le donner. Beaucoup d'entreprises vont avoir beaucoup de difficultés aujourd'hui, et c'est impératif que l'État, à travers l'aide qu'elle peut donner aux entreprises, eh bien, qu'il y ait une partie qui soit versée à ses salariés.
Air France, après l'annonce des 7 milliards de prêts directs ou garantis par l'État, la compagnie peut envisager plus sereinement la suite, même si le directeur général du groupe, Ben Smith, n'entrevoit pas de retour à la normale avant 2 ans. Dans un entretien aux Échos, il dit vouloir en profiter pour accélérer la transformation d'Air France, pour mieux rationaliser son réseau domestique principalement, mais en faire aussi, comme le lui a demandé Bruno Le Maire, la compagnie la plus écologique du monde, ce qui laisse sceptiques les associations de défense de l'environnement, Sandy Dauphin.
Le patron d'Air France rappelle l'objectif de la compagnie, réduire de moitié ses émissions de CO2 d'ici 2030. La nouveauté, ce sera dès 2024 pour les vols domestiques. Deux leviers, un renouvellement de la flotte avec des Airbus A220 plus légers et moins gourmands en carburant. Il y aura aussi une réduction de l'activité régionale, elle était déjà dans les tuyaux, 15% d'ici 2021. Pour Greenpeace, il faut plus que des promesses. Le gouvernement aurait dû exiger des garanties et des moyens de contrôle. Sarah Fayol Bayeul, chargée du dossier transport.
On parle là d'engagement purement volontaire. Il n'y a rien qui est inscrit dans la loi, ce ne sont pas des objectifs contraignants. Et les signaux envoyés ces 10 derniers jours par le gouvernement qui a refusé d'inscrire dans la loi toute contrainte, tout moyen de sanction et tout moyen de contrôle ne nous rassurent vraiment pas en fait.
Greenpeace plaide pour une solution plus radical.
Il va falloir interdire progressivement les vols courts, donc les vols domestiques, notamment en commençant par ceux pour lesquels une alternative en train existe déjà.
Cette semaine, le Haut Conseil pour le climat, organisme indépendant chargé de donner des avis au gouvernement, a recommandé un débat public sur l'avenir du secteur aérien.
Sandy Dauphin, à quelque chose malheur et bon, à ce chapitre environnement justement, on l'a dit déjà, la baisse drastique de toute activité a fait chuter la pollution, mais c'est évidemment temporaire. Et c'est le moment qu'a choisi le CNRS pour publier sa dernière étude sur les aires marines protégées, notamment en Méditerranée, où manifestement les dites protections ne sont pas suffisantes, puisque face au trafic maritime et face à la pêche, la biodiversité continue de régresser, Célia Kiré.
Il y a en Méditerranée un peu plus de 1000 aires marines protégées. Elles recouvrent 6% de la surface de la mer. Mais quand on les observe de près, la réalité est bien différente. Joachim Claudet est directeur de recherche au CNRS.
On peut remarquer que ce chiffre va drastiquement baisser. Parce que si on prend en compte uniquement les niveaux de protection suffisants pour protéger la biodiversité et les habitats, on passe de 6% à 0,23% de la Méditerranée qui est recouverte. On est quand même loin du compte des 10% d'aires marines protégées qui sont censées être efficaces.
Or, dans ces aires, c'est surtout la pêche qui pose problème et un peu moins la vitesse des bateaux ou la plongée sous-marine. Les mammifères marins, par exemple, restent vulnérables dans le sanctuaire de Pélagos qui couvre une large zone allant de Porquerolles au nord-ouest de la Sardaigne.
Le sanctuaire Pélagos, par exemple, n'a pas de réglementation assez stricte sur un grand nombre d'activités humaines pour fournir une efficacité sur une large gamme d'espèces et d'habitats.
Or, la pêche aujourd'hui est autorisée à l'intérieur de ce sanctuaire comme à l'extérieur. Il faudra donc mieux encadrer certaines activités selon ce chercheur. Ce sera l'un des enjeux du Congrès mondial de la nature qui aura lieu à Marseille en janvier prochain et de la COP15 pour la biodiversité qui devrait se tenir ensuite en Chine.
Célia Kiré. Dans l'actualité de ce samedi hors épidémie, l'Arabie Saoudite qui souffle le chaud et le froid. Le royaume ultra-conservateur régulièrement dénoncé pour violation des droits humains annonce qu'il supprime la flagellation de son arsenal pénal. Les peines de flagellation déjà prononcées seront remplacées par des peines de prison et des amendes. L'annonce intervient la semaine où Amnesty a publié son rapport sur la peine capitale dans le monde, où l'on voit que l'Arabie Saoudite a exécuté un nombre record de personnes, 184 exactement, en 2019. Parallèlement, les ONG annoncent la mort d'un opposant historique au régime, Abdullah Al-Hamid, condamné à 11 ans de prison et qui vient de succomber des suites d'un AVC. Frédéric Mettezeau, vous êtes le correspondant de France Inter au Moyen-Orient. Ce décès ne va pas bien sûr aider à restaurer l'image du régime.
Et pour cause, Yves, emprisonné depuis 7 ans, Abdullah Al-Hamid souffrait d'hypertension. Il y a 3 mois, un médecin lui prescrit une opération du cœur urgente, mais il n'est pas autorisé à sortir de prison. Le 9 avril, il fait un AVC. Le 20 avril, il s'effondre et passe des heures au sol avant d'être transporté dans le coma à l'hôpital. Ce professeur réputé de littérature arabe est mort mercredi à Riyad, la capitale. Il avait 69 ans depuis une trentaine d'années. Il prônait une monarchie constitutionnelle, des élections pluralistes, la séparation des pouvoirs, la fin des emprisonnements arbitraires et le rapprochement entre sunnites et chiites, tout cela en respectant la tradition islamique. Arrêté des dizaines de fois, il avait été surnommé le Mandela saoudien par Jamal Khashoggi, ce journaliste très critique du régime, assassiné à Istanbul par les services secrets saoudiens. Plusieurs organisations de défense des droits de l'homme accusent aujourd'hui le régime saoudien d'avoir laissé mourir son opposant le plus éminent. Les deux frères d'Abdullah Al-Hamid sont également emprisonnés.
Frédéric Mettezeau, correspondant de France Inter au Moyen-Orient. En Iran, à l'ouverture du Ramadan, toujours avec un décalage pour les chiites, le président Rouhani prévient qu'il faut envisager le scénario le plus pessimiste et que les conséquences économiques se feront sentir pendant des mois. L'Iran qui fait état ce soir de 5650 morts. Retour en France et à cette actualité du coronavirus avec, dans un instant, la course aux solutions pour le déconfinement sur le net. Mais d'abord, à quelques jours du 1er mai, les producteurs de Muguet le savent, savent déjà, cette saison 2020 sera pour eux catastrophique. La récolte est déjà faite, les clochettes sont belles, mais avec l'interdiction des ventes à la sauvette et la fermeture des fleuristes, les commandes sont en berne. Pour les maraîchers de Loire-Atlantique qui produisent plus de 80% du muguet, il sera difficile sans doute d'écouler la marchandise, Fanny Hoyer.
Éric Arouette, producteur de muguet à Saint-Julien-de-Concel, est amer. Cette année, son muguet est superbe.
Il est long, il a du pied, il a été cueilli bien à maturité sans être trop fleuri. Là, actuellement, il est au frigo à 2 degrés, les pieds dans l'eau.
Car sur les 2 millions de brins qu'il a ramassés, plus d'un million 6 lui restent sur les bras. Cette année, il n'a vendu que 20% de sa production aux grandes surfaces. Ses principaux clients, les fleuristes, étant fermés à cause du Covid-19, ses pertes sont monumentales.
Si j'arrive pas à vendre la récolte, ça a quand même un impact économique hein, sur mon exploitation, parce que c'est des milliers d'heures de préparation pour un jour de vente qui est le 1er mai. Normalement, je fais un chiffre d'affaires d'1,5 million. Là, on va être à 300 000 euros de chiffre d'affaires. Ça fait quand même un gros manque à gagner. C'est une catastrophe.
La Fédération des maraîchers estime que plus de 70% de la récolte de muguet ne sera pas vendue cette année. Patrick Véron, son conseiller technique, craint des conséquences sur le long terme pour la filière.
Comment vont réagir les grossistes fleurs qui n'achètent pas de muguet les fleuristes, est-ce qu'ils seront encore là l'année prochaine pour acheter du muguet? Voilà les questions qu'on peut se poser. Donc ça va certainement déstructurer, déstabiliser toute l'économie qui est autour du muguet.
C'est avec de maigres recettes que les producteurs de muguet se tournent déjà vers la récolte de l'année prochaine, dont la mise en place commence dans 3 mois, à la mi-juillet.
Le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, qui lui souhaite que 100% du muguet soit vendu, a autorisé la vente en drive et par correspondance pour les fleuristes. Allez, confinement, déconfinement, quoi de neuf sur le net? Bonsoir Christine Siméon.
Bonsoir, bonsoir à tous.
C'est partout la course aux solutions pour gérer le retour des Français dans leur entreprise, dans les commerces, dans les transports. Dans votre vie connectée cette semaine, Christine, vous vous êtes intéressée à cette initiative entendue à la télé.
Je regardais C'est à vous, il y a quelques jours, et j'ai entendu ceci.
Mais le président choisira. Et donc, avec des curseurs, le président fera un espèce de jeu vidéo sur lequel il aura la carte de la France. Et il pourra décider, en changeant les paramètres, je déconfine l'Alsace, je déconfine le Languedoc. C'est et vous savez quoi? Ça marche.
C'est comme un jeu vidéo, le président choisira. L'homme qui parle est le professeur Alexandre Mignon, médecin réanimateur. Et que me disait-il? J'ai besoin de l'aide de 300 000 à 1 million de Français pour construire des cartes et permettre de savoir ce qui se passera si on déconfine telle ou telle région. Alors, je suis allée sur le site Covid-IA où le professeur Mignon avait l'air de m'attendre et je me suis inscrite comme volontaire pour aider à l'étude menée par son équipe de médecins et de mathématiciens bénévoles. J'attends maintenant qu'Emmanuel Macron ait un jeu vidéo efficace pour vraiment savoir qui peut circuler et travailler sans risque.
On pourra promettre aux Français de non pas les tester tous, c'est-à-dire 65 millions de Français tels que le président nous l'a dit. C'est pas crédible et c'est pas possible. En revanche, qu'on puisse faire des modèles mathématiques pour nous permettre de savoir où sont les séropositifs.
En l'occurrence, Covid-IA compte surtout sur les grandes entreprises pour faire des tests sérologiques sur près d'un million de personnes et en tirer des statistiques sur toute la population française.
Alors le gouvernement a lancé divers appels à projets aux entreprises, ce qui vous a fait tousser, Christine.
Oui, j'ai toussé devant mon ordinateur, micro ouvert, sur la page internet d'un autre site, covitou.com. Et ça a donné cela... D'autres que moi l'ont fait, ça a donné des choses comme ça, ou bien comme ceci.
Alors, auriez-vous attrapé le Covid?
Alors non, je ne suis pas encore affectée par le coronavirus, et avant de tousser, on le signale hein, dans un questionnaire, si on a des symptômes ou pas. Alors, pourquoi faire cela? Eh bien, pour nourrir une intelligence artificielle. Écoutez Frédéric Lassara, le fondateur de la solution Covid-Tout.
Il y a des études qui ont été faites sur la pneumonie, par exemple, ou la coqueluche, et il a été démontré que ces maladies avaient des signatures sonores particulières. C'est en se fondant sur ces études préalables que nous pensons que nous allons pouvoir reconnaître la signature sonore du Covid-19. Maintenant, nous manquons de données, et c'est la raison pour laquelle nous avons fait un appel à sourcing. Nous demandons aux gens de passer 5 minutes de leur temps à bien vouloir s'enregistrer en train de tousser et de dire un certain nombre de mots-clés de façon à ce que nous puissions reconnaître une toux de quelqu'un qui déclare être non malade du Covid, de quelqu'un qui en aurait les symptômes.
C'est l'un de ces projets sur lesquels planche le gouvernement, un projet candidat à une bourse d'investissement comme des dizaines d'autres. L'idée avec ce type de solution, c'est de maîtriser la circulation des personnes infectées dans les lieux publics ou dans les entreprises pour que tout le monde se sente en sécurité. Et ma conclusion, c'est que pour vivre en société désormais, il faudra d'abord montrer son bulletin de santé.
Et tousser, c'était donc la vie connectée de Christine Simone. À retrouver bien sûr sur franceinter.fr. Tout de suite, le téléphone sonne, Claire Servageant.
Peut-être un petit mot de la météo si vous le voulez bien. Merci beaucoup Yves Decamp. Le temps, c'est tout de suite.
La météo, avec la Fondation de France, la PHP et l'Institut Pasteur, qui unissent leurs forces pour aider les soignants, les chercheurs et les personnes vulnérables. Tous unis contre le virus sur fondationdefrance.org.
Prévision de Jean-Michel Golinski.
Un dimanche qui sera à peu de choses près la copie conforme du temps de cette journée de samedi, même en mieux pour les Hauts-de-France, où l'on va éviter l'épaisse couche de grisaille du début de la journée, avec finalement plus de bleu que de gris du nord de la Loire au Grand Est. Mais l'après-midi, des pays de la Loire à la Bretagne, le ciel va se brouiller un peu plus, laissant parfois échapper une ondée. Mais c'est surtout dans la moitié sud du pays que l'instabilité sera la plus marquée, avec des averses et des orages plus nombreux en seconde partie de journée, sauf sur la Corse et sur les bords de la Méditerranée où le soleil va largement l'emporter parmi de rares entrées maritimes. Les températures très largement positives la nuit vont s'orienter un peu comme aujourd'hui entre 17 et 23 degrés l'après-midi.